With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux coureurs cyclistes de la décennie qui vient de s'écouler, la décennie 2010, avec nous pour vous accompagner Christophe Godot et Simon Farbach. Alors, on a tous pris un coureur imposé, on va dire messieurs, il va plus en avoir 5, il va plus en avoir 10, on s'est limité à 3, on parlera peut-être d'autres coureurs. On va commencer par Christophe. Christophe, il a pris le géant vert, c'est Peter Sagan, qui a été aussi 3 fois champion du monde en 20 secondes. Christophe, après la parole sera à la défense, vos arguments.
Bah, 2010, c'est quoi? 2010, c'est l'ère des réseaux sociaux. Et le champion des réseaux sociaux, c'est Peter Sagan. Mais il ne fait pas que ça, il a beaucoup gagné. Et en plus, il a su bien se vendre.
C'est pas mal, c'est pas mal. On y reviendra. Est-ce que le champion de la décennie est celui qui a le plus communiqué sur les réseaux sociaux? C'est une façon de voir les choses. Simon, bonjour. Simon, lui, c'est Vincenzo Nibali, le christique Vincenzo Nibali, lors de sa dernière étape sur le Tour de France, dernière étape victorieuse. C'est d'ailleurs la dernière étape de montagne à ce jour disputée sur le Tour de France, Simon.
Oui, effectivement, Guillaume, bonjour messieurs. Moi, je vais défendre Nibali parce qu'il a gagné 4 grands tours sur la période, mais aussi 3 monuments. Et je pense que parmi tous nos autres candidats, il n'y en a aucun qui peut s'en targuer. Pour moi, ça fait la différence. Et donc, bon courage, Guillaume, pour défendre ton candidat.
Hey, mon candidat, bah, c'est simple. Moi, ça, c'est sur le palmarès. On dit que le tour, les grands tours sont les compétitions les plus importantes. Et bien, Christopher Froome, quand je regarde le palmarès sur une décennie, c'est tout simplement 7 grands tours, 4 Tours de France, série en cours, 2 Vuelta et 1 Giro. Excusez du peu, messieurs. Le problème, il est là. Christophe, Simon, comment on va décider? Christophe, tu as parlé des réseaux sociaux, on a parlé des grands tours, on a des coureurs qui sont classiques. Et grand tour, Christophe, on va commencer par toi. Moi, je vais faire l'avocat du diable, Peter Sagan. Sur les grands tours, bon, il gagne des étapes. Mais bon, sur les classements, il n'est pas là. Il a, je crois, 2 victoires sur des courses à étapes. Il doit y avoir une Californie.
Et tour de Pologne.
Il y a un tour de Pologne en 2000.
Il y a un tour de Pologne.
C'est déjà pas si mal pour un sprinter. De courses à étapes, c'est déjà pas si mal. Alors certes, évidemment, il a jamais fini dans le top 10, dans le top 20, même dans le top 30 d'un grand tour. Par contre, il a toujours été présent, il a toujours fait la course. Sur le tour, c'est 7 maillots verts, et les maillots verts, il les a obtenus pas seulement en sprintant, mais aussi en allant chercher des points dans la montagne. Et ça, je crois que Christian Prudhomme a beaucoup apprécié, et le public a beaucoup apprécié. Sagan, c'est quelqu'un qui fait la course, qui sprint, qui gagne des classiques, mais qui va aussi dans les échappées en montagne, qui sait se faire mal, et ça compte, mine de rien.
C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs chez ton favori, Simon Vincenzo Nibali. Il fait le classement général, mais il est aussi capable de faire la course. C'est pour ça qu'on l'aime, le requin de Messine.
C'est sûr, mais juste pour rebondir sur un des arguments de Christophe, qui évoquait le fait que même sur les classements généraux, parfois, Sagan pouvait être là et surtout, il faisait tout le temps la course. Plus encore que son absence dans les top 10 des grands tours, moi, ce qui pose problème avec Sagan et ce qui, à mon avis, risque d'être décisif face à ces deux adversaires du jour, c'est le nombre de monuments remportés. Pour un spécialiste des courses d'un jour, ça fait 2. C'est comme Terpstra, c'est comme Degenkolb.
Ah, mais quel monument !
Dan Martin. C'est des super monuments, mais ça n'en fait que 2 par rapport au coureur qu'il est. Et je ne sais pas, vous, messieurs, est-ce que vous accordez la même importance dans l'histoire du cyclisme à un titre de champion du monde ou à un monument ? Pour moi, ils sont quand même au-dessus, Paris-Roubaix, Tour de Flandre, etc. Et d'en avoir que 2, c'est ce qui me gêne un petit peu dans sa candidature qui reste très sérieuse.
Moi, alors, pour rebondir, je ne suis pas un grand fan des classements. Moi, je pense qu'il ne faut pas classer, il faut additionner. C'est-à-dire que le talent de Sagan et le talent d'un Philippe Gilbert, hein, qui ont un peu les mêmes profils, s'additionnent très bien. Et c'est ça qui fait notre appétence pour le vélo, d'avoir toutes ces histoires croisées. Sagan, on l'a souvent présenté comme le meilleur sprinteur du monde. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit le meilleur sprinteur du monde, ce qui lui a obligé peut-être à changer de façon de courir, hein, s'il veut gagner. On regarde sur les sprints massifs du Tour de France, il ne gagne pas Peter Sagan. Attention, il ne gagne pas. C'est pas un serial winner, mais il gagne une fois de temps en temps. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu l'équipe pour s'organiser? Je pense que Peter Sagan, si vous le mettez dans un rôle pur de sprinter, il se fait chier. C'est qu'il va courir contre nature. Il a besoin d'aller devant. Il a besoin d'aller dans les échappées. Si on l'avait mentalisé, comme dit Richard Durand ou Peter Sagan, pour être qu'un sprinteur de train à la Cavendish ou autre, il n'aurait pas tenu. Psychologiquement, il aurait fait contre nature. Après, Peter Sagan, je suis d'accord avec Christophe sur le fait qu'au niveau des réseaux sociaux, il est fort. Et au-delà de ça, quand on va sur le Tour de France, c'est la star. C'est la star mondiale du vélo aujourd'hui. Hein. Peter Sagan, il vient de Slovaquie. C'est-à-dire, c'est pas le bassin de population slovaque qui l'a amené là. Non, non, c'est le monde du vélo. En général, les passionnés de vélo qui l'ont amené là, c'est la rockstar du circuit. Il a une attitude de rockstar. Il a compris la communication dans des années 2010. Ce sont aussi des années de communication. Lui, il a bien compris ça. Après, Christophe, je suis désolé, mais si on part sur ce profil de coureur, bah moi, Philippe Gilbert, pour moi, est au-dessus d'un Peter Sagan en termes de monument par rapport à ce que disait Simon tout à l'heure. Et puis, sur la façon de courir, il a un titre de champion du monde. Voilà, je le trouve plus marquant, avec aussi cette volonté de marquer à chaque fois ses victoires du saut du panache, comme l'a fait Sagan sur son premier monument, le Tour des Flandres, ou Paris-Roubaix, qui remporte quand même avec le maillot champion du monde.
Ouais, il gagne quand même deux monuments avec le maillot champion du monde sur le dos, Tour de Flandre 2016 et Paris-Roubaix 2018. Il y a trois championnats du monde de suite. Pour revenir à ce que tu disais, Simon, pour moi, le champion du monde, je le considère un peu comme le sixième monument. Voilà, je crois que les plus grands champions, Eddy Merckx, Bernard Hinault, ils ont toujours respecté cette course. Ils ont toujours voulu aller chercher. C'était un passage obligé dans une carrière. Pour moi, c'est le sixième monument et Sagan a gagné trois fois de suite. Je rappelle que c'est le seul à l'avoir fait trois fois de suite sur trois parcours différents. Il y a Richmond, où c'est une superbe victoire, où d'ailleurs, à l'arrivée, tous les coureurs sont ravis. On se rappelle de Bonnen, sourire jusqu'aux oreilles, alors que c'était une course qu'il aurait pu remporter, sourire jusqu'aux oreilles, parce que Sagan a gagné. C'est Cédric Vasseur qui me disait ça, quand Sagan gagne, ça fait du bien au vélo. Voilà, c'est un super ambassadeur. Quand il gagne, en fait, tout le monde en profite indirectement quelque part. On parle de vélo, c'est ce que disait Guillaume, c'est la rockstar du vélo. Je vais revenir aussi sur... c'est vrai qu'on peut considérer que Gilbert, les victoires de Gilbert sont belles. On se rappelle du Tour des Flandres, c'est évidemment magnifique. Maillot de champion de Belgique sur le dos, une attaque à 50 km de l'arrivée. Mais Sagan, quand il gagne le Tour des Flandres, il n'attaque pas dans le vieux Coramont, il n'attaque pas dans le Paterberg, il attaque bien avant. Il part avec Katowski et Van Mark, je crois. Sur Paris-Roubaix, pareil, il part de très loin, pas sur un secteur pavé. Voilà, ça, c'est Sagan. C'est je vais faire la course comme moi je l'entends, pas comme vous l'entendez, comme moi je l'entends. Et je crois que c'est aussi ce qui a plu au public.
Nibali est un peu dans cette veine-là de faire la course comme il l'entend et d'amener un peu de romantisme dans le cyclisme. En fait, si le débat, c'est la star des années 2010, moi, je me range du côté de Christophe. Effectivement, si on croise l'aspect statistique et l'aspect médiatique, pour moi, Sagan est au-dessus. Mais là, si on se concentre vraiment sur le vélo, Nibali, il a un registre d'action qui, à sa manière, est aussi très, très large et qui lui permet de nous rappeler un cyclisme des années 70-80. Il n'est pas au niveau de Merckx ou de Bernard Hinault, il ne gagnera pas un sprint massif ou un sprint avec 15-20 mecs, mais Nibali nous rappelle qu'on peut parler d'un grand coureur sans suffixe, sans dire un grand coureur de course par étape, sans dire un grand coureur de course d'un jour, et c'est ce qui fait, à mon sens, son charme.
Le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec Simon hein, sur Vincenzo Nibali. Je vais quand même défendre mon front, moi. Si on parle de palmarès brut sur cette décennie, personne n'a été capable de rivaliser avec lui sur les grands tours. Et je suis désolé, le Tour de France en particulier, si vous voulez parler au monde, bon, pour être une star, il faut parler au monde, il ne faut pas parler juste aux petits gens du vélo. Froome, allez dans la rue, vous allez voir, tout le monde le connaît. Et il a remporté ce combat-là. Peut-être même au-delà d'un Vincenzo Nibali, je ne suis pas sûr que le grand public connaisse Vincenzo Nibali. Ma mère, elle connaît Froome, hein. Elle ne connaît pas Vincenzo Nibali, ça j'en suis certain. Et je ne suis même pas sûr qu'elle connaisse Peter Sagan. Elle sait que c'est un mec qui met des lunettes comme ça, qui a une fois les cheveux courts, une fois les cheveux longs, mais elle n'a pas les réseaux sociaux. Donc, il me semble que Christopher Froome, c'est aujourd'hui le coureur cycliste le plus connu dans le monde, et pas seulement dans le monde du cyclisme. Et après, son parcours quand même est super étonnant. Alors là, on s'écarte très très loin des arguments que tu as avancés, Simon. On est très très loin, effectivement, de l'histoire du cyclisme, des Bartali, des Coppi, des Hinault, ces garçons qui étaient avant l'ultra spécialisation tour classique. Lui, a toujours eu comme ambition de remporter le Tour de France, parce qu'il est quelqu'un de cette génération qui a été élevé à la peut-être sur idéalisation du Tour de France et on le vit que par le Tour de France et le projecteur qui est mis sur soi en juillet. Donc il est dans cette lignée de coureurs, c'est quelqu'un qui a découvert le cyclisme finalement assez tard, qui vient pas d'une famille qui connaît bien le vélo, il a découvert à Aigle avec Michel Thèse, il a été programmé. C'est un coureur, j'allais dire programmé, comme on programme les choses en 2010. C'est pour ça que c'est la star des années 2010, Christopher Froome. C'est le roi des watts, c'est le roi de la programmation.
Mais on parle des accomplissements de manière quantitative, mais si on parle de l'amplitude, parce que les années 2010, c'est 10 saisons entre 2010 et 2019, qu'est-ce que gagnent Sagan et Froome, par exemple, en 2010?
Et comment il a gagné, excuse-moi, Vincenzo Nibali, il a gagné comment le Tour de France? Parce qu'il n'en a qu'un. Et c'est quand même dans ce classement, s'il n'a pas le Tour de France, tu n'es peut-être pas là en train de nous parler de Vincenzo Nibali. Ah,
c'est sûr que
il a gagné par abandon. Jean-Christophe Perrault 2 et Thibaut Pinot, qui était encore un jeune coureur, 3. Il n'y a plus Contador, il n'y a plus Froome. Autrement, il ne le gagne jamais. Bon, je n'y crois pas une seconde à ce que tu dis.
Bien sûr, il y a des circonstances de course, il y a des victoires, on passe pas loin des fois. Des fois, à un kilomètre, ça change l'image qu'on a d'un coureur. Effectivement, là, si Contador et Froome font le Tour de France 2014 et le terminent au top de leur forme, peut-être que Nibali fait 3 et qu'aujourd'hui, on pense pas à lui. Mais s'il cale pas dans le final de Liège-Bastogne-Liège en 2012, quand il se fait passer par Iglinski alors qu'il était parti pour, en attaquant dans la Roche-aux-Faucons, remporter la doyenne magnifiquement, peut-être que justement, on aurait parlé de lui dans les très grands coureurs plus tôt. Donc, c'est vrai que des fois, le basculement se fait à peu de choses. Mais pour revenir à l'amplitude, moi, ce qui m'impressionne, c'est ça, c'est qu'il fait podium du Giro et victoire sur la Vuelta en 2010. Et en 2019, il est encore podium du Giro, une étape sur le Tour de France. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il couvre toute la décennie qui peut permettre à Nibali de se démarquer un petit peu. Alors que Froome, bah, c'est arrivé au bout d'un ou deux ans.
Ça commence en 2011, les victoires sur les grands tours. Il sera encore le favori s'il y a le tour en août. Ça fait quand même 2011.
Oui, ça fait qu'une année d'écart, ça gagne aussi. Mais c'est une année, quand on parle de la crème, qui, à mon avis, peut faire la différence.
Je vais revenir un peu sur Froome. On le catalogue souvent comme l'emblème de ce cycliste qu'on n'aime pas, ce cyclisme un peu réglé au millimètre. Mais je me souviens quand même qu'il y a quand même quelques belles images de Froome. Bon, évidemment, il y a le Ventoux. Hein, c'est quand même, peut-être que c'est l'image de la décennie. Froome à pied dans le Ventoux. Mais il y a aussi, il y a cette étape sur le Giro. On pense ce qu'on veut, mais c'est quand même une étape fabuleuse. Sur le Tour aussi, il y a eu quelques moments où il a fait la course. Je me souviens d'une descente. Je crois que c'est Peyresourde sur le Tour 2016 où il part dans la descente et il va gagner à Bagnères de Bigorre. Il y a aussi en 2016 avec Sagan justement
à Montpellier. Avec Sagan, ouais.
Avec Sagan, la bordure avec Sagan, ils sont 4 dans le final. Il y a Sagan, il y a Froome.
Montpellier,
c'est ça. Il y a Gaël Thomas et il y a Machel Bodnar. Voilà. Froome, il a aussi cet aspect-là où qu'on a tendance à oublier parce que c'est Sky, c'est Ineos, c'est très impopulaire. Et d'ailleurs, je pense que la popularité de Sagan et Nibali trouve aussi un peu sa source dans l'impopularité de Sky et Ineos.
Probablement.
Sagan et Nibali paraissent comme des coureurs romantiques. Nibali encore plus que Sagan. Alors que Sky Ineos, c'est la machine qui écrase tout.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. En plus, il faut voir que Froome, enfin, si vous voulez gagner le Tour de France, je prends l'exemple de Julien Alaphilippe, qui, pour le coup, on verra dans 10 ans si on le met dans notre classement, mais il n'y est pas encore. Julien Alaphilippe, aujourd'hui, pour moi, il ne peut pas gagner un grand tour. Il ne peut pas gagner un grand tour parce qu'il n'a pas l'approche psychologique pour gagner un grand tour. Julien, c'est un hyperactif qui a besoin de communier avec le public comme Peter Sagan d'ailleurs. Sauf que si tu veux gagner un grand tour, ben ça tu peux pas le faire. Tu es sur une stratégie de récupération. C'est-à-dire qu'il y a le podium à gérer, derrière tu récupères. Je me rappelle très bien avoir vu le petit manège organisé autour de Christopher Froome autour de la Vuelta. C'est-à-dire que quand il va au protocole, Christopher Froome, on le masse déjà, on le fait manger, il est déjà douché. Ensuite, on met dans une voiture, on a enlevé les sièges à l'arrière, on a remonté la banquette, on fait déjà un petit peu de cryo au niveau des jambes. Tout est organisé. Julien Alaphilippe, il part, il va faire 4 poulies, il va aller serrer d'un. Si tu veux gagner un grand tour, tu es à l'économie. Donc, tu es à l'économie de tes rapports à l'autre aussi, ce que tu vas donner au public. Et Christopher Froome, il se doit de faire ça. Même chose quand tu cours. Quand tu veux gagner un grand tour, les grands DS, ils ne vont pas… à part, tu t'appelles maire. C'est-à-dire, tu pars, tu mets 15 minutes à tout le monde, c'est réglé. Ça, c'est plus possible hein, dans le vélo aujourd'hui. Et tant mieux, enfin, tant mieux. Pas par rapport à Merckx, mais par rapport à
certains,
un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit de le faire. je pense que Froome, ça, c'est dans sa nature profonde d'aller dans les coups, comme la bordure de Montpellier, comme la fabuleuse étape du Giro. Mais si tu es dans la stratégie aujourd'hui d'hyper spécialiste du Tour, envoyé par Indurain hein, à la base, reprise par Lance Armstrong ou plus tard, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Donc, tu évites les pavés, comme Ignacio évitait les pavés jusqu'à 1980 avec son maillot de champion du monde. Tu ne vas pas, pendant deux heures, signer des autographes. Mais est-ce que Sagan et un Julian Alaphilippe l'ont, cette force? Cette force qui fait qu'aujourd'hui, tu peux gagner un grand tour? Ben, Froome, il a. C'est dans la tronche. C'est de la privation. C'est sûrement de la privation, parce que je pense que quand on est coureur, le salaire de la sueur, c'est aussi cette communion avec le public. Le vélo, c'est ça. Il s'en interdit, Christopher Froome. Il s'en interdit, clairement, je pense.
Oui, est-ce je suis que d'accord. Vous pensez, pardon, Christophe, est-ce que vous pensez justement qu'une victoire, un changement de registre éventuel de Froome, ça permettrait de rajouter quelque chose à sa grandeur parce qu'il manque quelque chose? Ou est-ce que maintenant qu'il est dans ce registre, à votre avis, ce sera justement le cumul des grands tours qui fera qu'on le placera ou non dans les classement des meilleurs coureurs de l'histoire, ou il faut qu'il essaie d'aller chercher un Liège ou autre, à votre avis?
Pour moi, il y a deux choses. Déjà, je pense que c'est un coureur de grand tour. Je ne suis pas sûr qu'il ait les capacités pour aller gagner Liège-Bastogne-Liège, honnêtement. Il va manquer de punch à un moment. Sur une arrivée groupée, je ne le vois pas remporter un sprint à 5 ou 6. Déjà, il y a ça. Et deuxièmement, je pense que c'est un peu tard, peut-être, pour changer. Alors certes, dans son équipe, il y a Bernal et Thomas. Peut-être qu'il sera plus leader sur le tour. Et encore, ça prouvait. Mais même, je pense que c'est trop tard pour lui de changer de braquet maintenant.
Non, il lui reste 2, 3, 4 années au max, et encore 4, je suis gentil, on va dire 2. Et lui, il le sait, il va rentrer dans la légende comment? En égalant le club des 5, voire en le dépassant. Après, je suis complètement d'accord avec Christophe, il y a des habitudes pour gagner des grandes classiques, pour gagner des monuments qu'il faut avoir, frotter, les courses sont moins cadenassées. Il est dans un fauteuil hein, quand il est chez la Sky ou chez Ineos. C'est-à-dire, voilà, il ne sera pas dans le même fauteuil sur une classique. Il a des lacunes en descente, même s'il paye les ressources, il a fait mal à tout le monde il y a quelques années. Il l'avait répété 45 fois la descente. Il va lui manquer un petit truc pour. C'est fini, c'est terminé.
Il
est programmé pour ça.
Il faut rappeler aussi qu'avec sa grave blessure, déjà qu'on soit dans des discussions comme ça de ce qu'il va pouvoir faire à 1, 2, 3, 4 ans, c'est déjà très fort qu'il soit redevenu coureur cycliste vu la chute effroyable qu'il avait eue lors de la reconnaissance du chrono du Dauphiné l'an passé.
Ouais, évident, c'est clair. Il n'est pas encore, à ma connaissance, redevenu coureur cycliste. Hein. Je le vois beaucoup sur.
Ouais, il a fait une course en début de saison. Mais bon,
oui, il est à l'arrière.
C'est pas redevenu le Christopher Froome qu'on.
Voilà, on l'a pas encore revu avec un dossard. Faire mal aux
autres. Et de l'ambition, ouais. On ne sait pas encore.
L'ambition, il l'a. Est-ce que c'est pas. Moi, je crois clairement qu'il y a un bras de fer psychologique qui a commencé au sein d'Ineos. Hein. Il y en a trois qui vont être leaders l'année prochaine sur le Tour de France. Donc, c'est la guerre de la communication et Christopher Froome. Comme je disais tout à l'heure, il a l'oreille du monde entier. Donc, il parle au monde entier. Il est en train de dire, c'est moi le boss. C'est moi Raoul, c'est moi le patron. Guérin, t'es gentil, pas m'emmerder. Et Yann, voilà. Et n'oublions pas que c'est un sponsor britannique. Il veut quand même plutôt voir un Britannique remporter le Tour. C'est pour ça aussi que quand tu vas chercher les sponsors, je ne suis pas sûr que les gros sponsors, genre Ineos, qui sont arrivés, ça les intéresse si tu gagnes Liège, si tu gagnes 4 fois la Lombardie, ils s'en foutent. Hein. Le retour investissement et le plan média, il se fait sur le Tour de France. Donc, tu prends un produit pour aller gagner le Tour de France. Ils en ont 3, voire 4.
Ce qui est sûr, c'est que si Froome arrive à gagner le Tour cette année, on changera de discours sur lui, parce que revenir, ce que tu disais Simon, revenir de sa blessure du Dauphiné et gagner, alors qu'en plus, la concurrence la plus forte, elle est peut-être dans son équipe, c'est la première victoire, elle va être là. S'il gagne le Tour cette année, on va changer de discours sur lui, il rejoindra Ineos, Merckx et Indurain et Anquetil à 5, il gagnera le Tour 3 ans après sa dernière victoire, enfin, ça serait vraiment énorme.
C'est sûr, je suis d'accord, là on dévie un peu du débat qui était vraiment centré sur la période 2010, mais c'est vrai que si on parle de l'image de Christopher Froome, ça le ferait changer de dimension. Déjà, le simple fait d'atteindre le cap des 5 aurait suffi à le faire. Alors en plus, dans ce contexte-là, c'est sûr que ça resterait un accomplissement notable qui nous marquerait et qui nous ferait peut-être un peu évoluer. notre point de vue à son sujet.
Il peut le gagner, votre avis, Christophe, sinon le cinquième, voire le sixième tour.
Je pense qu'on manque d'infos sur. Excuse-moi, Christophe, on manque d'infos sur le niveau qu'il a pu retrouver et puis aussi sur le. Au moment vraiment où ça va jouer, sur mentalement, est-ce qu'il va être capable. Tu parlais de frotter, là c'est moins le cas sur les grands tours, mais est-ce qu'il va avoir encore la même capacité à se battre comme un lion, parce que c'est une dépense d'énergie aussi énorme de viser un grand tour. Et comme tu disais, Guillaume, c'est pas comme de redevenir coureur cycliste, mais de musarder en fin de peloton et d'être content de pouvoir tourner les jambes. Pour l'instant, je pense qu'on a trop peu d'infos là-dessus, des infos qu'un home trainer pourra jamais nous donner pour nous prononcer sur ce sujet.
Non, oui, je suis d'accord. C'est un roi du poker menteur, Christophe Farfondi, ne donnera pas les bonnes infos.
En plus,
il y a une chose, c'est qu'on tout le monde le sait, on est dans une saison particulière. Et est-ce que ça peut jouer en sa faveur, un coureur aussi expérimenté, par rapport à Egan Bernal, qui va peut-être arriver moins bien sur le tour? C'est possible, j'avoue que j'y crois pas. Pour moi, Egan Bernal, vu sa démonstration de l'année dernière, reste le favori avec un an de plus.
Et si ça se trouve, on est déjà dans une communication pour protéger Bernal. Fond, mais tu es déjà peut-être en train de prendre le costard et il fait le boulot pour Bernal. Ça aussi, j'en suis moins sûr. Bon, alors, on a parlé un petit peu des trois là. Il y en a peut-être d'autres là qu'on aurait pu mettre. On rappelle, hein, là, j'ai pris les couleurs de Nibali 2014, le fameux tour, hein, Simon. On a notre Sagan, Froome, le meilleur coureur des années 2010. On n'arrive pas à être d'accord. Ça dépend des classiques, ça dépend des grands tours, ça dépend de l'affect. On aurait pu en mettre d'autres pour vous?
Ouais, pour moi, il y a deux noms qui reviennent. Il y a Philippe Gilbert, évidemment. Philippe Gilbert, sur la période, c'est quand même quatre monuments différents. Hein. Un tour de Lombardie, un Liège-Bastogne-Liège, un tour des Flandres, un Paris-Roubaix dans l'ordre. Ça, personne ne peut en dire autant sur la période. Et Philippe Gilbert, comme
une année 2011 aussi. Une année 2011 incroyable.
Bien sûr. Et un titre de champion du monde en 2012.
Et on parle de Philippe, là.
On parle de Philippe Gilbert.
Ouais, 2011, ça c'est sûr, hein, c'est son année. Je crois qu'il avait très bien négocié les primes, d'ailleurs, cette année-là. Il est malin, Philippe. Mais Roubaix, c'était l'année dernière. Le Tour des Flandres, c'était bien après 2011. Quoi. Il a changé d'équipe à chaque fois. Il a été capable de se réinventer partout où il allait, d'être un grand leader, de se plier à la Deceuninck. Est-ce que ça va continuer chez la Lotto? Ça, je suis un petit peu moins sûr. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé sur ce classement, c'est le matos. Je pense que le matériel aujourd'hui en vélo fait beaucoup. Je prends l'exemple de Philippe Gilbert. Sans donner un petit truc comme ça, je l'ai eu au téléphone, il dit: moi, Guillaume, je suis pas sûr de faire Roubaix cette année. Je dis: ah bon, pourquoi tu fais pas Roubaix cette année? Bon, c'était avant le confinement avec le Coureur de Nice. Il dit: parce qu'avant, j'avais le meilleur vélo. J'avais Specialized, j'avais le meilleur vélo pour emporter Roubaix. Si je pars avec un mulet, tu peux pas. Tu peux pas gagner. Donc, on voit bien que les différences, elles se jouent à ça, entre les grands champions, hein, entre un Gilbert, un Van Avermaet, ou les autres prétendants à Roubaix, il y en a plein. Et ça se joue des fois juste au vélo. Donc, nous, on est en train de dire, ça se trouve, ils sont tous pareils. Ça dépend de quel vélo tu as et quelle équipe tu as aussi.
D'ailleurs, ça gagne, je crois qu'il gagne Paris-Roubaix sur Specialized.
Oui, avec, je rappelle la petite potence qu'il est en train de régler avec la clé Allen, où ils avaient un nouveau système justement pour amortir les chocs.
Dans son livre, il raconte qu'il a essayé de redresser son guidon en tapant dans la roue arrière de Yelle Wyllys.
C'est vrai,
et qui s'est dit, bon, mon statut de champion du monde, il dira peut-être pas grand-chose. C'est passé une fois, deux fois, mais ça a failli un peu dégénérer. Et finalement, il a réglé ça autrement.
Alors, Gilbert et Cancellara, c'est ça, les deux autres?
Ouais, Cancellara, moi, je vais peut-être laisser Simon en parler.
Ouais, Fabien Cancellara, on y a pensé aussi. Après, là, le désavantage, quand on parle des années 2010, à mon avis, c'est qu'il est un peu à cheval sur les années 2000. Quand on regarde son total de victoires, il a plus de victoires en carrière dans les années 2000 que dans les années 2010. Ses plus grands succès, avec cinq monuments notamment, sont assez récents, sont dans les années 2010. Mais si on prend la globalité de sa carrière, ce qu'il dessert dans le débat du jour, c'est ça. C'est vraiment la période durant laquelle... il a été au top, parce que sinon c'était un candidat sérieux, d'autant plus que l'un de ses plus grands moments, c'est le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix 2010, donc là qui rentre dans la catégorie de notre discussion, et avec une domination telle sur Tom Bonnen notamment, qui fait que c'est naturel de parler de lui, avec en plus un titre de champion du monde du chrono aussi dans la période, un titre de champion olympique du chrono pour partir au sommet du sport mondial. Il aurait été un candidat légitime si l'un de nous trois l'avait défendu sans problème, à mon avis.
Et Tom Queux, alors? Tu en parlais, Tom Bonnel, je ne sais pas, moi, Christophe, si on parle de Cancellara.
Un peu pareil, je pense, c'est une question d'être à cheval, ouais, sur deux périodes. Tu ne penses pas, Christophe?
Ouais, Bologne, c'est surtout, c'est encore pire que Cancellara, je pense, parce que sur Roubaix, ses trois premiers succès sont les années 2000. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être 2006, 2007 et 2009. Et après, il le regagne en 2012. 2012, par contre, il fait le doublé, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Il y a aussi des sprints sur le Tour, des sprints sur la Volta.
Ah,
Mais
mais
j'ai
tu as raison,
l'impression que
c'est plus
Bonnen,
compliqué. Pour le mettre 2010, c'est plus compliqué.
on l'aurait tenu sur la décennie 2000, Bonnen. En plus, c'est le titre de champion du monde en
Son
2006.
fameux titre de champion du monde aussi. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence, selon vous, pour être le plus grand de ces années de Nice, 2010, la star, le palmarès, l'affect, avec qui vous irez boire un verre? Je sais pas, moi, c'est comme ça qu'on va le définir, Christophe.
Si Peter Sagan est bien luné, ça peut être sympa. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Et alors, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par la star des réseaux sociaux, mais c'est pas que ça. En fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est d'être à la fois la star sur le vélo, c'est quand même 113 victoires sur la décennie 2010, Peter Sagan, et en même temps la star des réseaux. En fait, il a allié les deux, et c'est ça qui est beau chez lui. Il s'est amusé pendant 10 ans, il s'est amusé, et pendant ce temps-là, il nous a amusé aussi, tout en gagnant des courses.
Moi, je ne suis pas d'accord, encore une fois, sur la star des réseaux sociaux. Je reste persuadé que la star des réseaux sociaux, c'est Froome. Je pense que quand Sagan fait un post, le monde du vélo le voit, ça dépasse un peu le monde du vélo, mais quand Froome fait un post, c'est le monde entier qui le voit. J'en reste persuadé.
C'est la force du Tour de France.
Oui, bien sûr. Simon, un verre avec Vincenzo Nibali?
Ouais, bah moi ce sera avec plaisir. Et puis surtout, je trouve qu'il représente un assez bon compromis dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Guillaume, tu parlais des stats assez brutes du nombre de grands tours remportés. Il est, avec Froome d'ailleurs, dans la caste des 7 coureurs qui ont remporté les 3 grands tours. Donc il y a cet aspect palmarès où, de manière vraiment statistique, arithmétique, il est très fort. Avec également les 2 tours de Lombardie et le Milan-San Remo, Milan-San Remo 2018 qui moi m'a marqué. Et il y a aussi une part de médiatisation, c'est le requin de Messine. Il a pas le même degré de notoriété que Sagan, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui dégage quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il coche les 2 cases.
Moi, pour revenir sur Christopher Froome, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui. Je crois qu'on ne connaît pas bien le mec, Christopher Froome. Je pense déjà c'est un très très gentil. C'est vraiment un. Voilà. Nous, Français, en plus, voilà, les Anglais, on les aime pas. C'est comme ça. Je parle en globalité. Je parle en majorité. Il y a toujours des exceptions. J'ai vécu très longtemps en Angleterre. J'adore les Anglais. Mais voilà, vu de France, déjà, Froome, c'est l'ennemi. C'est tout ce qu'on n'aime pas, c'est les watts, il est très loin de nos souches latines. Donc ça joue pas avec lui. Pourtant, c'est un super bon mec. Aussi bon mec qu'il peut être tueur en course. Et j'aime bien les tueurs en course. J'aimais bien Hinault parce qu'il était tueur en course, j'aimais bien Merckx parce qu'il était tueur en course, et j'aime bien Christopher Froome. Et l'image de Froome sur la volonté d'arriver, sur la volonté d'aller à ce but, on parlait de ce qui se passe en ce moment chez Ineos entre Bernal, Froome et Geraint Thomas, c'est l'image où il négocie. Sur le tour, je sais plus, c'est bah 2012, c'est le tour remporté par Bradley Wiggins, ça bien entendu. Il est en train de négocier. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue là parce que c'est moi le meilleur. Je continue, il gagne pas le tour, ou alors c'est moi le leader l'année prochaine. Cette image-là, en mondiovision, qu'on est un petit Kényan, parce que ça reste un petit Kényan dans l'empire britannique du vélo quand il arrive chez la Sky, il faut avoir une paire de dérailleurs assez impressionnant. C'est cette force de caractère de mec qui était peut-être pas le plus doué en technique de vélo comme un Sagan, en culture de vélo comme un Vincenzo Nibali, qui pour moi reste le symbole de ces années 2010, les années de l'hyper mondialisation. On a plein de coureurs qui sont venus de plein de pays différents qu'on ne voyait pas avant. Et ce type-là, venu du Kenya, je le répète encore une fois, avec sa force, son auto-persuasion, est arrivé à se faire une place, quoi. Il a forcé les portes. C'est ce créneau, ce destin, comme les plus grands, comme Hinault, comme Merckx, qui m'interroge chez Froome, même si aller boire un verre, je pense que j'irai plutôt avec Vincenzo Nibali. Ouais. Une question d'affinité culinaire. Et puis, ce que j'aime chez Vincenzo Nibali, c'est qu'il n'en fait pas trop, comme moi. Ouais. Vincenzo Nibali, c'est la classe, c'est le stoïcisme, c'est le Gino Bartali du peloton aujourd'hui.
Ouais, et puis contrairement aux deux, Nibali, il est très attaché à l'histoire du vélo. Contrairement à Froome, qui n'a pas baigné là-dedans, à Sagan, qui n'a pas baigné là-dedans. Nibali, on sent qu'il aime ça, il connaît ses prédécesseurs, il sait ce qu'il doit gagner pour être l'égal des plus grands.
C'est pour ça qu'il s'emporte d'ailleurs un peu garant de cet aspect historique, parce que ça doit le toucher d'autant plus.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on aura, on aura jamais raison. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour avoir raison. On est là pour se compléter, discuter avec vous. On rappelle, hein, Vincenzo et Froome. Voilà, c'est notre top 3. On aurait pu y mettre Cancelara. On aurait pu y mettre également Philippe Gilbert pour ces années de 2010. Salut les garçons, c'est bien amusé. Hein.
Salut les gars, à plus. Ah.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.